de prendre quelques bonnes résolutions. C'est pas toujours évident à tenir, hein. Je sais pas comment vous faites. Je dis maintenant, j'ai pris une bonne résolution, je vais plus prendre de bonnes résolutions. Moi, il y a... Bon, mais on sait très bien que si on prend et parfois il faut prendre des bonnes résolutions, c'est pas toujours évident à tenir, hein. Imaginez, mais ce sera pas du tout pour moi que dites cette année, voilà, plus de chocolat, c'est fini. Terminé, hein, voilà. Manger assez pendant fête, etc., plus de chocolat, et que là, donc, sur votre boîte mail ou par SMS, hein, on vous envoie le 1er janvier à 00h, hein, bien, une promotion extraordinaire, vous avez été désigné client de l'année par une grande boîte de chocolat. Et puis, donc, vous aurez droit, pendant une année, personnalisé, livré chez vous, 1 kilo de chocolat au choix, qu'on va vous envoyer, etc. Pendant une année, renouvelable comme les ordonnances, 3 fois. Mais bon, que faire? Que faire devant, hein, cette tentation-là? Vous êtes c'est le VIP de cette boîte, grande boîte de chocolat, pendant 3 ans. Vous rendez compte, hein, c'est gratuit, vous êtes VIP, etc. Bon, c'est pas évident, hein. Alors, si je dis ça, autre, c'est que depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, à nous le savons bien, lui va opérer, il va opérer depuis quelques semaines, va opérer depuis, eh bien, notre conversion, une œuvre de construction. Il va bâtir avec nous, bien sûr, il va édifier, on l'avait vu. Mais il y a un principe que vous connaissez, qui est spirituel, mais qui est aussi terre à terre, c'est que quand nous sommes déterminés à croire, grandir avec Jésus, systématiquement, on va rencontrer de l'opposition. C'est clair et net, c'est pas une prophétie, c'est pas quelque chose, mais c'est une réalité biblique. À partir du moment où on est résolu, on est déterminé à continuer à marcher avec Jésus, bien, on le sait très bien, bien, en face de nous, il va y avoir de l'opposition. L'opposition, c'est une loi, c'est un principe spirituel. Alors ce matin, à travers toujours l'histoire de la reconstruction du temple, du muraille de Jérusalem, on va définir deux grandes catégories d'opposition qui veulent nous empêcher de progresser avec Jésus en 2026, qui veulent arrêter notre croissance, en vie spirituelle, mais parfois elle est morale, parfois elle est intellectuelle, parfois elle est psychologique, parfois même corps, des choses qui se passent, hein, vous savez, pas bien là, il y a même des réactions du corps. Et on va voir dans les deux grands types d'opposition, deux grands types d'opposition. Il y a des oppositions qui vont être externes au peuple de Dieu, quoi, l'ennemi, quoi. Et puis une deuxième catégorie, on pense pas souvent, mais il va y avoir aussi de l'opposition au sein même du peuple de Dieu. L'opposition externe, puis l'opposition interne. Alors, on relira aujourd'hui. Le contexte, juste pour se rappeler, ce matin, c'est la reconstruction donc du temple, des murailles de Jérusalem. Alors, ça se passe entre moins 538 et moins 445. Très précis, hein. L'historien qui nous rappelle ces choses-là. Et puis, il va y avoir, donc, vous savez que le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. Il y aura 3 vagues successives, hein, qui vont revenir sur Jérusalem. Première vague avec un certain Zorobabel et Josué, parlé. Tout après une deuxième vague avec Esdras, une troisième vague avec Néhémie. Et dans toute cette période, qui est quand même assez étendue, bien, systématiquement, il va y avoir de l'opposition. À tel point qu'à un moment donné, bien, l'arrêt des travaux du temple va être effectif. Ça va durer plusieurs dizaines d'années. Alors, l'opposition extérieure, d'abord, prendre le premier point, l'opposition qui vient de l'extérieur, on va dire, du peuple de Dieu. Là, quand on regarde un petit peu les oppositions, elles sont souvent véhiculées par la parole, la langue, les choses qu'on va dire sur le peuple de Dieu. Et ça va se verbaliser. Alors, on sait très bien que pour chacun d'entre nous, ça parle très bien de la langue. On peut lire ça, Jacques 3, etc. Il dit que c'est un petit membre qui se vante de beaucoup de choses. C'est le feu de la géhenne. Parce que par elle, on bénit Dieu. Par elle, on maudit l'homme qui a été créé à son image. Et nous-mêmes, et moi le premier, on est capable, hein, de 3 phrases veux dire deux belles louanges, deux belles choses, et puis la dernière qui va tout réduire ensemble ce qu'on a dit les deux premières. L'homme est ainsi fait. Et les premières oppositions extérieures vont se manifester par rapport au peuple de Dieu avec la langue. Alors, je vous lis Esdras 4, c'est la première opposition. Voilà ce qu'il est dit. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs, issus de l'exil, construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel, chef de la famille, pour leur dire, voilà, les paroles. Nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Esarhaddon, roi d'Assyrie, s'en fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu, nous la construisons tout seul à l'Éternel, Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Mais au départ, en lisant ce texte, bah, finalement c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée ici que ces hommes proposent, c'est de venir aider, alors matériellement, peut-être même financièrement, à la construction du temple, à la reconstruction du temple de l'Éternel. D'ailleurs, ils le disent, nous aussi on adore Dieu. Bon, ils oublient juste de dire que avec l'adoration de Dieu, ils adorent d'autres faux dieux. Et ça ils ne le disent pas. Ils disent pas. Et finalement, on aurait pu se dire, et Zorobabel et Josué, on aurait pu se dire, mais pourquoi? C'est un peu de bon sens, on manque de matériel, on manque peut-être de main d'œuvre. Oui, ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Et ça semble cohérent, bienveillant. Il y a juste un petit détail qu'on a lu ensemble qui ne va pas. C'est le premier mot, les ennemis. Les ennemis. C'est le premier terme qui est employé ici. Hein, les ennemis. En fait, finalement, ici, on est face à un premier ennemi qui, parfois, pour nous, un obstacle, en tout cas de l'opposition, s'appelle le compromis. Compromis. Voilà. Hein. On connaît le compromis. Alors, c'est bien enrobé avec des paroles mielleuses, trompeuses. Proverbe 2,16. Sera délivré de la femme étrangère. De l'inconnu, au discours flatteur, aux paroles doucereuses. Mais c'est le compromis. C'est le compromis. Et quand on construit, hein, alors peut-être vous qui avez construit ou qui avez fait de la rénovation, on peut être parfois tenté de faire un petit compromis sur certains matériaux. Et là, on m'impose celui-ci avec ses normes, etc. Mais c'est trop cher pour moi, je m'en sortirai. C'est trop difficile à mettre. Alors, on va noter si on dit, on va mettre un autre matériau. Et puis on se dit, de toute façon, on le verra pas parce que on va le cacher, on mettra du plâtre dessus, de la peinture, et puis personne ne le saura. Sauf que, bien, souvent, malheureusement, quelques années après, on voit les matériaux prennent l'eau, etc. Puis c'est la catastrophe. Parce qu'on a fait un compromis. Vous connaissez, hein, l'histoire de ce soldat, c'est pendant la guerre de sécession en Amérique, et puis, lui, il en a assez de toutes ces guerres, il veut la paix. C'est louable, hein. Il veut la paix. Alors il se dit, mais comment je peux faire? J'ai pas envie de me faire tirer dessus, moi. Et une nuit, il a une idée de génie, il se dit, ça y est, j'ai trouvé. Pour tranquille par rapport au sudiste nordiste. Et le matin, on le voit arriver sur le champ de bataille avec le pantalon des sudistes et la veste des nordistes. Et il se dit, personne va me tirer dessus. Chacun va reconnaître en moi un ami. Sauf que personne n'a reconnu en lui un ami. Tout le monde a reconnu en lui un ami. Le compromis s'est fait tirer dessus par tout le monde. Le compromis. Dieu nous met en garde contre l'ennemi compromis. Vous voyez? Alors, on connaît tous comment ça fonctionne. Hein? Tout le monde le fait. J'ai vu un chrétien qui faisait même. On coupe l'enregistrement. Un jour, hein? On va faire comme ça, etc. Et là, ben, on se fait piéger. Arrêter notre croissance. De Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Alors là, parfois, bon, il faut bien revoir le contexte, mais étranger à notre vocation. Faut pas le prendre dans l'absolu. On dit maintenant, ben, je vais pas m'associer, je sais pas, moi, pour c'est pas pour une entreprise, avec quelqu'un. Si cette personne partage les mêmes valeurs de droit, etc., je peux, c'est dans ce sens, si étranger à votre vocation, à votre appel, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'unité, ou le commun entre la lumière et les ténèbres? Moi, c'est important. En tout cas, il y a ce premier danger ennemi extérieur qui va s'opposer systématiquement par rapport à notre croissance, c'est le compromis. C'est pas si grave que ça, ça va, ça va. Tu sais, il y en a d'autres qui le font et puis, ça passe. Deuxième ennemi, verset 4, Ezra, alors les populations du pays découragèrent le peuple juif et l'intimidèrent pour empêcher de construire. On connaît ça aussi, hein, tous, hein. Le découragement, ici, associé, bien sûr, à l'intimidation. Face au refus de bâtir ensemble, la stratégie pour s'opposer au chantier va commencer à se durcir. De lire toutes sortes de paroles pour décourager, nous, on va dire, c'est les différents pas qui sont là, même qui vont s'en charger, et cela va venir seul. Lui, le fait, ça va vous charger. Ça va durer, hein, imaginez un petit peu d'être découragé, etc., intimidé. On se rappelle juste l'histoire de Goliath, et puis qui venait intimider l'armée d'Israël. Hein. Chaque jour, il venait, qui veut se battre avec moi? Et ils étaient tous découragés. Tous découragés. Et pendant 10 ans, ça va durer, et les travaux. Toute notre bonne volonté, rien n'avance. Il semble même que les choses aillent plus. C'est une. Et ça nous décourage. Le découragement, ce sentiment qui nous envahit lorsque nous nous rendons compte que ce que nous on a entrepris, c'est au-dessus de nos forces. Et je dis, mince, ah, je pensais y arriver, mais là, je sature, je peux pas y arriver. Et puis, bien sûr, on est découragé. Ou alors, un sentiment qui nous avait, vous savez, lorsqu'on arrive presque au but, on est presque au but, il y a quelque chose qui se passe, il y a une difficulté supplémentaire. Bon, c'est pas vrai. Hein. Vous montez un col, vous pensez arriver au sommet, là, hop, vous êtes content, mince, il y en a encore un plus haut. Vous êtes découragé. Ou alors, ce sentiment qui nous envahit lorsque on nous intimide. On dit, mais tu n'y arriveras jamais. T'es nul. Ça sert à rien. C'est même pas la peine d'essayer. Et ça, bien, c'est un sentiment qu'on connaît tous à un moment donné. Ça nous décourage. Alors, que faire quand on est découragé? Eh bien, on arrête, on baisse les bras, bien sûr, on abandonne. On abandonne. Je le disais, je le redis, dernièrement, un pasteur vient témoigner de son désir d'abandonner. C'était trop difficile, ce qu'il vivait familialement, dans l'église, etc. C'était trop dur. Et il avait cette pensée d'abandonner. Bien sûr, il priait le Seigneur, mais il avait... Et un jour, Dieu va l'encourager. Jésus va l'encourager par une parole. Je vous la recite un petit peu de mémoire. Je ne te demande pas d'abandonner, mais je te demande de t'abandonner entre mes mains. Je ne te demande pas d'abandonner, mais de t'abandonner entre mes mains. Et à partir de ce moment-là, bien, ce frère a commencé à être restauré, puis il a poursuivi le ministère. S'abandonner. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus quand nos bras tombent, quand on n'a plus d'énergie, quand on est usé, quand on est fatigué, parce qu'on est découragé, parce qu'on est intimidé? Matthieu 11, 28, Jésus le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et on sait très bien, alors j'ai pas d'études en tête, hein, mais je pense qu'on a fait des études dessus, empêcher quelqu'un de dormir ou d'avoir des nuits plus courtes, un enfant, à mon avis, ça peut nuire à sa croissance. Hein. Il va y avoir des problèmes parce que il n'est pas reposé, parce que le corps n'est pas assez reposé, il va y avoir des problèmes de croissance. Que le Seigneur nous aide ce matin. Oui, Seigneur, ben là, je suis fatigué, je suis même pour commencer 2026. Seigneur, bien, mais je veux pas abandonner. Par contre, je veux m'abandonner, abandonner mes soucis, ma fatigue entre tes mains, et puis, Seigneur, bien, relève-moi selon ta promesse. Esdras 4:5. On continue. Ah, il y en a, hein, il y en a. Elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Elles soudoyèrent. Ça s'appelle la corruption. Ou alors le trafic d'influence. On entend ça maintenant, hein, régulièrement. C'est pas qu'avant ça n'existait pas, mais peut-être que c'était plus caché. Mais voilà, le trafic d'influence, la corruption. La corruption, c'est l'action de pervertir, de dégrader quelqu'un pour arriver à ses fins. En général, la corruption, c'est associé à l'argent, bien sûr, à des privilèges, à une place. C'est un moyen dont on va se servir contre nous pour ensuite nous manipuler, pour nous tenir. Voilà. Je l'ai déjà raconté, mais quand on est arrivé sur Besançon, donc on avait une brave mamie hein, qui était généreuse son temps, qui avait des chocolateries. Ah, c'est peut-être pour ça. Voilà. Elle avait des chocolateries sur Besançon. Ah, voilà, mon traumatisme des chocolats. Ça y est, j'irai voir un psychologue. Et donc, ça y est. Et cette brave mamie, lorsqu'elle nous a accueillis, parce que je sais comment elle fonctionnait, nous a dit, écoutez, demandez-moi ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Waouh! Une femme qui était riche, hein, qui avait des biens, etc. Alors, à l'époque, c'était le magnétoscope, la télévision en couleur, etc. Et on lui a dit, écoutez, votre présence aux réunions nous comblera grandement. On a bien fait. Parce qu'à un moment donné, elle a essayé de faire un petit peu de chantage avec la sono qu'elle avait achetée. Au moment, j'ai écouté, elle s'appelait Madame Millot, je peux citer, elle est auprès du Seigneur maintenant. Hein. Et écoutez, votre sono, je sais que vous l'avez payé, c'est à vous, alors je vous la mets dehors de l'église, vous venez la chercher, on n'en parle plus. Bon, ça a été fini hein, quand même, elle s'est calmée un petit peu, mais elle voulait exercer un petit point de chantage sur le pasteur, sur les anciens, parce qu'elle avait donné, etc. Ça arrive, hein, ça arrive. Judas, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, on le sait, hein. Et puis d'autres. Mais là encore, eh bien que le Seigneur nous garde, en tout cas, face à cette corruption qui, vous voyez, un moyen de pression. Et puis après, on s'en sort plus. Hein. On est lié. Toujours avec les paroles, Néhémie 2.19. Alors, bon, je vais quand même vous les lire, Néhémie 2.19, parce que ça peut aussi nous arriver sous différentes formes. Néhémie 2.19. Nous dit ceci, par exemple, Sambala le Horonite, Tobija le fonctionnaire ammonite, Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous, ils nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Et puis, Néhémie 3, 33 à 36 nous dit ceci, lorsque Sambala a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère, il s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs. Il a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que fait donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Va-t-on offrir des sacrifices? Vont-ils finir leur tâche dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière ?» Tobija était à côté de lui, il dit, « Qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera rouler. » Moquerie, mépris, insulte. Voilà un petit cocktail de bienvenue, hein. On le connaît peut-être aussi, hein, moquerie, mépris et insulte. Et par ce moyen, on touche à notre identité, on touche à notre personnalité, on touche à notre intimité, on touche réellement à ce que nous sommes, notre image de soi. Et ça peut ralentir notre croissance. Ce matin, on pourrait tous venir ici puis dire, eh bien, ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi quand on était enfant, ado, jeune. Hein, entre enfant, entre ado, entre jeune, parfois on ne fait pas de cadeau. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on a été guéri, mais il y a peut-être encore des cicatrices, des traces qui perdurent dans notre âge adulte parce que on s'est moqué de nous, parce qu'on s'est méprisé. Psychologiquement, moralement, il y a encore peut-être des marques. Que dit l'Écriture si ce matin, eh bien, on est sujet, en tant que chrétien, eh bien, à la moquerie dans la famille. On nous a méprisé, on nous a éloigné, on ne nous a plus parlé. Ça existe encore dans certaines familles, là, ce rejet. Eh bien, Pierre en parle. Et il dit ceci dans 1 Pierre 4:12, quelque chose qui est vraiment de l'ordre spirituel, parce que humainement, comment on réfléchit, comment on réagit devant l'insulte, le mépris? Je sais pas comment vous faites, mais quand on est touché à notre identité, eh bien, on a tendance là aussi, eh bien, à monter, hein, également dans ce genre de joute verbale, entre guillemets. 1 Pierre 4:12, mes bien-aimés, soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté, voilà, à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en est pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Verset 19. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Rappelons-nous ce matin, bien que Jésus lui-même a été humilié, insulté, méprisé, moqué, et il a tout supporté, bien par amour pour chacun. Alors si ce matin nous vivons, et ça peut exister encore aujourd'hui, eh bien relevons la tête, parce que l'Esprit de gloire repose sur nous, parce que Jésus n'a pas honte de nous. Parce que Jésus n'a pas honte de nous. Esdras 4.11, on ne va pas tout lire, c'est un courrier là, c'est plus des paroles, c'est un courrier qui est envoyé carrément au roi Artaxerxès. C'est une lettre d'accusation. Alors c'est un mail, c'est un SMS, parce qu'on n'écrit plus beaucoup maintenant. C'est les réseaux sociaux, et ça détruit, on sait là aussi, des vies, et c'est terrible. Et là, cette lettre d'accusation, comme toute lettre d'accusation, c'est un mélange subtil entre vérité, demi-vérité et mensonge. Vous voyez, on arrange tout entre des faits qui sont établis, et puis après des interprétations. On pense que, on croyait que, etc., etc. Et tout ça, c'est envoyé, bien sûr, au roi. L'accusation, vous connaissez également, hein? L'accusation, on connaît. Et dans le domaine, dans ce domaine, le diable en est le maître. Le diable en est le maître. Il y a une vision qu'un certain Zacharie a eue, et vous la relirez chez vous, mais je vous la donne. C'est dans Zacharie 3, 1-5, elle est très intéressante parce que elle est dans le contexte. Cette vision, Zacharie voit Josué, le souverain sacrificateur de l'époque. Il est en abyssal. Et bien sûr, eh bien, il se considère comme pécheur, comme indigne d'exercer la fonction de souverain sacrificateur. Parce qu'en plus, se tient, eh bien, à ses côtés, l'accusateur Satan qui est là et qui l'accuse. Mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est là aussi. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus dit que l'Éternel te réprime. Et il dit donc à Josué, bien maintenant, relève la tête parce que enlevez-lui ses habits sales, remettez-lui un vêtement de fête et un turban. Et Jésus s'adresse à Josué, il dit bien, je te remets un habit de fête. Je faisais cette réflexion dernièrement. Le diable accusateur qui accuse les frères hein, jour et nuit, c'est dans Apocalypse 12, 10 qui est cité ceci. Lorsque Satan se tient devant Dieu, il nous accuse non pas de mensonges, mais de faits qui sont réels. Parce que un mensonge devant Dieu ne tient pas. D'un revers de main, Satan serait balayé. Mais quand Satan nous accuse devant Dieu, c'est avec des faits réels sur nos vies. Regarde ce qu'il pense encore. Regarde ce qu'elle dit, regarde comment il se comporte, et puis ça se dit pasteur, et regarde encore ce qu'il fait quand il rentre chez lui, et tatati et tatata. Et tous ces faits sont des faits qui sont réels. Mais, il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que malgré ces accusations, eh bien Jésus se tient là aussi devant Dieu, il est notre avocat. Amen. Et il nous dit, bien, mais ne crains pas, je t'ai revêtu d'un habit de justice, bien sûr tu as besoin de faire quelques progrès, on est bien d'accord. Mais devant Dieu, mon Père Céleste, je t'ai justifié. Tu es justifié. Ne crains pas, c'est un habit de fête et de salut qui est sur toi. Quelle grâce ce matin. Quelle grâce. Malgré les accusations adversaires qui sont fondées, qui sont vraies, eh bien, l'ange éternel, Jésus se tient à nos côtés. Jean dira ceci, hein, vous connaissez ce texte, 1 Jean 2, si quelqu'un a péché, eh bien, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il existe en France le défenseur des droits de l'enfant. On pourrait dire que Jésus, ce matin, est le défenseur des droits de ses enfants, de chacun d'entre nous. Et il se tient devant son Père Céleste. Et face aux accusations jour et nuit de l'adversaire, eh bien, il dit à son Père, celui-ci est ton enfant, celui-ci est ton fils, est ta fille, elle est revêtue désormais et il est justifié. C'est quelle gloire. Même face aux accusations. Et puis, Néhémie 6, on terminera avec les accusations, il y en a encore deux en externe et puis on terminera par les internes. Néhémie 6, vous relirez, là, nous parle carrément d'un message, d'une lettre qui est une ruse. D'une ruse. Hein, basée sur des rumeurs, sur des mensonges, sur ce qu'on appelle de la calomnie. La calomnie, c'est dire un mensonge sur quelqu'un pour atteindre vraiment son honneur. On sait très bien que la rumeur, elle est terrible. La calomnie, lorsqu'elle est lancée sur quelqu'un, personne ne peut la maîtriser, personne ne peut la retenir. Que dit encore l'Écriture ce matin, si au travail, si dans la famille, si dans le village, on est là aussi bien face à la calomnie. Je le dis souvent, dans les années 50, lorsque des personnes nouvelles rentraient à l'époque, les salles des assemblées de Dieu s'appelaient la salle Viens et vois. Viens et vois. C'était ça. Donc, une des premières réactions des personnes nouvelles dans ces années, c'était de regarder au plafond. Les gens regardaient au plafond. Que regardaient-ils au plafond? Il y avait une rumeur à l'époque, dans les années 50-60, c'est que les chrétiens étaient bizarres. Comme ils avaient mangé leurs enfants dans les catacombes à l'époque des Romains, c'était une rumeur aussi. Ah oui, hein, il y avait le sacrifice des enfants. Je vous le dis, hein, mais ils marchaient au plafond. Ils marchaient au plafond. Et donc, bien sûr, on regardait s'il n'y avait pas des traces de pas au plafond. On ne sait jamais. Ces gens bizarres. C'était des rumeurs qui couraient. Il y en avait d'autres. Hein. Je veux dire, voilà, une rumeur. Une rumeur parmi tant d'autres. 1 Pierre 2,12. 1 Pierre, moi j'aime bien cette rumeur marcher au plafond. Hein. 1 Pierre 2,12. Voilà ce qu'il est dit concernant les calomnies, les rumeurs. Notre attitude à l'égard de celle de Jésus. 1 Pierre 2,12. Voici ce que dit Pierre. Il dit d'abord ceci, 1 Pierre 2,12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent vos belles manières d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Cette espérance qu'un jour Dieu va visiter ceux qui nous calomnient. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 3,15. La même part. La même pensée. 1 Pierre 3,15. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur, respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà. Que Dieu nous aide là aussi, bien. Pouvoir agir, réagir par le Saint-Esprit comme Pierre nous le partage. Et puis, Esdras 4, 23 nous rappelle ceci, et puis il y aura Néhémie 4, 2, 5, il est question là de force, il est question de violence, il est question d'attaque. On va dire c'est le summum de l'opposition extérieure, c'est quand nos frères et sœurs en ce moment, plus de 380 millions de frères et sœurs, dans le monde, eh bien, qui de force sont torturés, sont parfois même mis à mort, qui vont au martyr à cause de leur foi, sont attaqués. C'est l'expression de l'opposition la plus dure, la plus honteuse, etc. La torture, la violence, les exécutions, on connaît tous ceci. Et pourtant, un certain Tertullien dira ceci, le sang des martyrs, c'est une semence des chrétiens. On ne comprend pas la persécution. Mais malgré tout, on sait que le diable est toujours une œuvre qui le trompe. Là où même il y a de la persécution, il y a où même des frères et sœurs qui sont martyrisés et qui en meurent à cause de leur foi. Eh bien, le sang qui est versé, là aussi, eh bien, n'est pas inutile. Dieu le voit. Il est dit ceci que le sang des martyrs, c'est une semence des chrétiens. Là où il y a martyr, eh bien, souvent l'Église continue à prospérer et à s'agrandir là aussi pour le royaume de Dieu. Alors, on termine par la deuxième pensée. Il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même quelques-unes des oppositions intérieures, ce qui vient de l'intérieur, et qui parfois peut faire plus mal. Parce que s'entendre être critiqué, calomnié, humilié, s'opposer par le monde extérieur, bon, c'est un peu normal. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est autre chose, et je m'explique. D'abord, il y a quelque chose qui est en nous, c'est Esdras 3:3. Je vous lis le contexte. Force d'opposition intérieure que tout le monde connaît et là qui est propre à chacun d'entre nous. Lui, ceci, ils rétablirent l'autel sur ses fondations malgré la peur que leur inspiraient les populations instables. La peur. Hein, la peur, alors, elle fait partie des émotions de base, la peur. Qu'est-ce qu'il y a comme autre émotion de base par la peur? On ne dit pas que la peur, et Dieu a permis ces émotions. Qu'est-ce que vous avez comme autre émotion? Sentiment de base, dites-moi voir. Là, la tristesse, en a un, exactement. Là, d'autres. Ben, la joie, quand même. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme autre sentiment, émotion de base? La colère, effectivement. Alors, après, on peut ajouter la surprise, le dégoût, enfin bon, etc. Mais toutes ces émotions, bon, bah, Dieu nous les a données. On le sait. Alors, la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Bien d'accord. Alors, qu'il soit conscient ou pas, qu'il soit réel ou pas, peu importe, hein. On va pas entrer dans le débat, mais c'est ça la base. Il y a une menace et donc il y a quelque chose qui se produit en nous. Alors, en fonction de chacun et en fonction des circonstances, on sait que la peur peut être salutaire. Peut-être salutaire. Vous mettez un coup d'adrénaline, on va faire le 100 mètres en 5 secondes parce qu'on a vu un gros chien qui avait, waouh! Voilà, ça va nous sauver, hein. La force va être décuplée. Quelque chose qui va se produire. Mais on sait aussi que, en fonction de certains des circonstances, la peur peut susciter de la paralysie. On va être paralysé. On bouge plus. On est là. Il y a quelque chose que l'on vit, etc. Et puis, ben c'est ainsi. Et on a toutes sortes de peurs, hein. Vous le savez. Hein, donc, il y a la fameuse agoraphobie, sûr. Hein, c'est la peur. On est dans un lieu. Il y a la phobie sociale. Il y a aussi l'arachnophobie. Vous savez ce que c'est, ça? Hein, c'est quoi? Non, les araignées. Il y en a une qui est gentille, je l'ai trouvée, c'est sympa, mais pour celles et ceux qui sont atteints de cette peur, c'est la mussophobie. Vous connaissez la mussophobie? La mussophobie ou la musophobie. Moi, je trouve mignon comme mussophobie. C'est la peur des petits reptiles, des petits rongeurs. Les souris, des mussophobies, c'est mignon, hein? Mais il y a des frères et sœurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je connais un grand gaillard, là, Jessica doit le connaître, c'est le frère, je ne sais plus son nom, c'est de Anaël et puis Ameline. Thibaut, voilà, c'est un grand gaillard, hein, fait de la muscu, etc., voilà, enfin bon. Et dans les vignes, si vous voulez le faire crier, hurler, fuir, une petite araignée. Une petite araignée, hein. Et c'est un... Alors, il a beau se raisonner, il a beau se contrôler, c'est comme ça. Et il y a des peurs, vous pouvez pas les expliquer. Mais les peurs, alors nous, on en rit, peut-être. Il y a une chose ce matin que j'aimerais nous rappeler, c'est que Jésus ne se moque jamais de nos peurs. Jésus ne se moque pas de nos peurs. Même si c'est une araignée qu'on nous met dans le cou. Nous, ça peut nous faire rire quand on était des gosses, on savait qui, etc., puis on s'amusait. Ah, mais Jésus ne se moque pas de nos peurs. Parce que lui-même va vivre l'angoisse de Gethsémané. Il va vivre lui-même l'angoisse de la croix. Il va vivre lui-même ses angoisses. Et il nous promet toujours de nous rassurer par sa présence. Dans Matthieu 14, 25, quand les disciples associent Jésus à un fantôme, c'est un fantôme, etc. Pourtant, Jésus vient. Eh bien, que va dire Jésus? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez. Ce matin, on a le droit d'avoir peur. Il y a des peurs qu'on ne peut pas contrôler, qu'elles soient réelles ou pas, hein. Parce qu'il y a parfois des peurs qui sont irréelles, c'est le cerveau qui fonctionne. Eh bien, Jésus dit, mais rassure-toi, c'est moi, n'est pas peur. Voilà. Ok, je vais t'accompagner, je suis là, on va travailler ensemble. Il y a des peurs qu'on va pouvoir évacuer, qu'on va pouvoir maîtriser. Il y en a d'autres, on les aura jusqu'à au bout de notre vie, hein. Même pour celles-là, Jésus ne s'en moquera jamais. Il sera toujours à notre côté pour nous rassurer. Néhémie 5, c'est un chapitre qui nous parle d'un état des lieux assez étonnant. C'est que pendant, justement, que le peuple était un petit peu livré à lui-même, eh bien, il y a des juifs qui ont profité de la situation financière ou d'autres de manière particulière. Certains seront trouvés à cause d'une famine dans le besoin, puis de nourriture. Alors, ils ont demandé de l'argent à d'autres. Et là, bien sûr, on leur a prêté, mais avec un intérêt très fort. Puis des familles encore plus en difficulté, ils sont obligés de vendre leurs propres enfants en esclaves à d'autres juifs. Et ainsi, bien, certains vont profiter du malheur des autres pour dominer, pour écraser, pour en profiter. Vérité, hein. Que dit l'Écriture dans Philippiens 2:3 ? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et là, on parle d'opposition intérieure, l'orgueil dans l'Église. On connaît pas, nous, hein. Ce sont les autres qui sont orgueilleux. Mais moi, je suis l'un parmi les humbles. Quand je dis ça, c'est extraordinaire, hein. Bien sûr, pour me mettre un petit peu en avant. Bon, écoutez, on va se rassurer tous, hein, on est tous au même niveau. Vous vous rappelez de ce jour, Jésus a posé une question curieuse à ses disciples qui le suivent. Je ne sais pas s'ils le suivent ou le précèdent. Il dit, mais de quoi discutiez-vous là, en chemin? Elles sont un petit peu gênées, les disciples, hein. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Qui sera? On voulait savoir qui était le plus petit. Le plus grand. On voulait savoir qui était le plus grand. Ça commençait les disciples. Pourtant, ils sont avec l'enseignement. Mais non, on veut savoir qui est le plus grand, etc. À Corinthe, il y avait des divisions. Il y avait l'orgueil qui était là. Ah, moi, je suis d'Apollos. Apollos, c'était quelqu'un qui pouvait vous tenir en éveil avec une prédication pendant 5 heures. Extraordinaire, Apollos. Il était éloquent, versé dans l'Écriture. Ah non, les autres, ils voulaient être de Paul. Paul, lui, c'est le pionnier. D'autres étaient de Pierre. Moi, j'aime bien les plus spirituels parce que eux étaient de Jésus. Ah oui, ça, c'était juste un petit peu d'orgueil. Juste que Dieu nous garde. Là aussi, on sait que l'orgueil dans l'Église, il est destructeur. Il empêche la croissance, etc. Il divise, il outrage, il humilie. Et on sait que parmi nous ou avant nous, des frères et sœurs, alors j'oserais dire, ont quitté peut-être la communauté, mais et on n'espère pas le Seigneur. Parce que, eh bien, ils ont été brisés par l'orgueil de quelqu'un. Ils ont été brisés par l'orgueil de quelqu'un. Et plaise à Dieu qu'il n'ait pas lâché, en tout cas, la main du Seigneur. Ça, c'est autre chose. Mais il faut le savoir, il y a là aussi cet ennemi interne qui est terrible, c'est celui de l'orgueil. Et puis, je termine, j'en ai encore ouais, deux à vous proposer, et on conclut. Néhémie 6,14 nous parle des faux prophètes. Il y a une fausse prophète qui a voulu, là aussi, bien essayer de décourager, bien sûr, les serviteurs de Dieu. Et là, dans ce domaine, eh bien, on sait que notre monde, l'Église, il peut y avoir de faux prophètes, de fausses prophéties. Hein? Matthieu 7,15 nous donne quand même quelques éléments. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 24,24, il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ. Il y a une vigilance et puis il y a un équipement que Dieu nous donne, heureusement. Il dit que même Satan est capable de se déguiser en ange de lumière au point même s'il était possible de séduire les élus. Mais Dieu nous donne son esprit. Deux choses. 1 Jean 4, 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez des esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et puis, justement, 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, retenez ce qui est bon. Maintenant, quand il y a une profession, on n'a pas le droit de dire qu'on c'est Dieu qui parle. Attention, non, ben, c'est la sœur un tel, c'est le frère un tel, etc. Non, la Bible nous dit d'examiner. C'est pas remettre en question ce qu'on a entendu, mais c'est d'éprouver. Et Dieu nous donne un don, c'est le don du discernement des esprits, dans 1 Corinthiens 12, pour savoir si le frère a été inspiré alors par lui-même, par Dieu, j'ose dire par le diable. Bon, mais parfois, même en tant que chrétien, le diable sait très bien insuffler dans nos pensées toutes sortes de choses qui sont tordues, hein. De toute façon, je ne dis pas que le frère ou la sœur est possédé, qu'il faut la chasser de l'église, puis qu'il faut lui imposer les mains pour chasser tout ce qui bouge à l'intérieur. Je ne dis pas ça. Mais des fois, on est un petit peu tordu. Un petit peu tordu. En tout cas, Dieu nous dit bien d'éprouver, d'examiner, de partager. Tiens, frère, sœur, j'ai entendu ça ce matin dans telle assemblée ou sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas remettre en question la parole de Dieu, mais c'est de faire preuve de sagesse, de bon sens et de discernement. Et ça, on a besoin, on aura besoin de plus en plus. Et puis le dernier, vous relirez dans Néhémie 6, 17 à 19, la trahison, la trahison. Il y a des personnes, des hommes du peuple de Dieu qui ont fait alliance en secret avec les ennemis. Et même devant les responsables, il parlait en bon terme de ses ennemis devant le responsable pour le provoquer. La trahison. La trahison, c'est une rupture brutale de la confiance qu'on a placée en quelqu'un. Et en droit, c'est le crime d'une personne qui passe carrément à l'ennemi. On trahit sa patrie, on passe à l'ennemi. Et ce matin, je pense qu'on a tous été un jour, plus ou moins, alors trahis en amour, en amitié fraternelle, en communion fraternelle. On a été trahis spirituellement, etc. Nous sommes 55, Judas, Pierre, les disciples ont trahi Jésus. Et tout ça, bien, ce sont des blessures parfois qui sont ouvertes, on est trahi. Et quand on est trahi, je ne sais pas comment vous réagissez, mais on a le sentiment d'être abandonné, de ne valoir rien du tout. Et ça, ça peut stopper la croissance. Ça peut stopper notre croissance. Et ma mère m'a dit ceci au début de ma conversion. Ça m'a toujours suivi, ça me suit encore. Elle m'a dit, tu seras déçu. Ça commence bien, la vie chrétienne. Alors, elle m'a dit, tu seras déçu par les chrétiens. Bon, pourtant, hein, quand on est jeune, converti, alors tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Tu seras déçu par les pasteurs. Ça m'étonnerait quand même. Hein, bon, mais on est déçu par les pasteurs. Tu seras même déçu par moi-même, en tant que mère, en tant que chrétienne, etc. Mais, vous connaissez la suite, tu ne seras jamais déçu par qui? Par Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Alors oui, on peut tous vivre des moments de trahison, de blessure. Un frère en qui on avait confiance, etc. Il nous a déçus peut-être, même il a chuté. Il y a des exemples aussi, je les connais, vous les connaissez. On a été amené par des frères et sœurs qui avaient une vocation, un ministère extraordinaire et qui nous ont amenés au Seigneur dans la foi, qui ont été pour nous des pères et des mères spirituelles. Et puis un jour, on a appris qu'ils avaient chuté. On a eu un sentiment d'avoir été trahi. On s'est dit, mais comment les héros sont-ils tombés? Alors que Dieu nous aide à notre tour à être pour eux, peut-être, des pères, des mères spirituelles, de les ramener dans la foi, ne serait-ce que de prier pour eux, même si on n'a plus le contact avec, parce que c'est parfois compliqué, mais là aussi d'avoir cette espérance. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ce matin, Jésus ne nous décevra jamais, jamais. Ésaïe 49, 16, le prophète parle de Jérusalem, et voilà ce qu'il est dit, « Je ne t'oublierai jamais. » Et il est dit ceci concernant Jérusalem, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant mes yeux. » Les murailles qui étaient en train d'être reconstruites, les murailles qui sont écroulées, les murailles qui ont eu une histoire en haut, en bas, etc., les murailles qui, pour l'instant, bien, sont enfouies, etc. Eh bien, Dieu dit, tes murailles sont constamment devant mes yeux. Et ce matin, tes murailles, alors peut-être qu'elles sont fissurées, peut-être qu'elles sont bien consolidées, peut-être qu'elles ont besoin d'être restaurées. Peu importe. Jésus te dit, eh bien, je ne t'oublie pas, parce que ta vie est constamment devant moi. Je ne t'oublie pas, je ne t'oublie pas. Alors, quelles que soient les oppositions extérieures ou intérieures, je vous fais un petit résumé, il y en a d'autres. Compromis, découragement, corruption, moquerie, mépris, insulte, accusation, calomnie. Waouh, je sais pas si on va manger après ça. Hein. Si, on mangera quand même, parce qu'il y a la suite. Mépris, insulte, accusation, violence, peur, orgueil, faux prophète, trahison, etc. Voilà, là on a mis la dose. Gardons quand même les regards sur Jésus. Et j'aime bien le texte, et on termine par Hébreux 12. Pourquoi Hébreux 12? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Et la boucle va être bouclée avec Hébreux 12 au verset 2 à 3. Il est dit ceci de garder, vous connaissez le texte, hein, les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Et puis la suite est intéressante. La suite est intéressante parce qu'il dit ceci. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez, en effet, à celui qui a supporté une telle opposition. Jésus a supporté toutes les oppositions possibles et inimaginables. Il dit ceci après, contre lui, de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Considérons ce matin, dans mes oppositions, qu'elles soient extérieures ou intérieures, eh bien, considérons Jésus, ayant les yeux fixés sur lui, et puis considérons l'opposition que lui, il a subie par amour pour nous, afin d'être encouragé, renouvelé, d'être libéré de tout ce qui pourrait nous empêcher de grandir. Nous continuons à croire, parce que c'est le but de Jésus pour nous pour 2026. Amen. Que cette bonne résolution qu'on a prise, que cette bonne disposition de dire, Seigneur, je veux continuer à croître avec toi, eh bien, il puisse s'achever en chacun. Amen. Que le Seigneur, ce matin, nous bénisse et nous visite. On va prendre encore ce dernier moment autour de la Sainte Cène. Peut-être que librement, deux ou trois frères et sœurs pourraient venir sur le devant pour présenter la Sainte Cène, pour servir. Et puis, ce matin, bien, soyons reconnaissants, exprimons notre louange, hein, ayons les regards fixés sur Jésus.